Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez Radio Grand Ciel, au micro Yves Bastide pour l'émission Les coulisses de la mémoire. Je voudrais aujourd'hui évoquer un livre qui a été écrit par Lorraine Bacall, par moi-même. C'est un livre qui a été écrit en 1978. Alors Lorraine Bacall, c'est un exemple extraordinaire d'une existence exceptionnelle. Elle est née en 1924 et lorsqu'elle a démarré au cinéma après une brève carrière de mannequin, elle a tourné 4 films qui sont devenus des classiques incontournables du cinéma américain. Et tous les 4, elle les a tournés avec celui qui n'était pas encore son époux, enfin, pour le premier du moins. Alors en 1944, c'est Le port de l'angoisse. En 1945, Le Grand Sommeil. En 1947, Les Passagers de la Nuit. Et en 1948, Quai Largo. Alors déjà, chance exceptionnelle. Le premier film, c'est avec Howard Hawks, mise en scène. Le deuxième film également, Les Passagers de la Nuit, de Damien Lives. Et enfin, le dernier, Quai Largo, mise en scène par John Huston. Et son partenaire, c'était Humphrey Bogart. Humphrey Bogart, que beaucoup appelaient Boggy, qu'elle-même appellera Boggy dans son livre de souvenirs. Elle a à peine 19 ans quand elle le rencontre. Elle veut se marier avec lui. Alors c'est un scandale épouvantable parce que Humphrey Bogart en est déjà à son 4e mariage. Il est toujours marié à l'époque, en 1944. On est à son 4e mariage, il est plus âgé qu'elle. Alors, contre vents et marées, ils finissent par se marier en 1945. Ils vont vivre ensemble jusqu'à l'année 1957, où Humphrey Bogart meurt d'un cancer. Ils ont vécu là 11 années et demie d'un bonheur que Lorraine Bacall voudra absolument évoquer 21 ans après la disparition d'Humphrey Bogart dans le livre qu'elle a écrit en 1978. Ce livre s'appelle « Par moi-même ». Pour ceux que ça intéresse, il est paru en français aux éditions Stock. Elle a une façon d'évoquer les derniers instants, les derniers jours, les dernières heures de la vie d'Humphrey Bogart avec une pudeur et en même temps une sincérité, une franchise. Je vous laisse le soin d'en juger. Encore une fois, je regardais Boggy de très près. Il dormait. Toute l'ossature de son visage se dessinait avec précision. Il n'avait pas un frémissement de paupières. C'était le sommeil d'un vivant, très différent de celui dans lequel il entrerait un peu plus tard. Je dis à l'infirmière que j'allais venir avec mon fils. Je priais de nous laisser seuls. Je l'ai trouvé Steve, mon fils, et lui demandais s'il voulait venir avec moi, voir papa un moment dans sa chambre. Je lui ai expliqué de nouveau que papa était plongé dans un profond sommeil, qu'il ne fallait pas avoir peur. J'étais certaine qu'il serait rassuré de voir son père dormant tranquillement, presque normalement. Main dans la main, Steve et moi entrâmes dans la chambre. Il flotte comme un écho d'un autre monde dans une pièce où gît un être aux portes de la mort. L'on s'y déplace avec lenteur, sans bruit, saisi par la crainte de la terrible énigme. Avec précaution, je m'assis sur le lit, plus effrayé que Steve. Qu'allait-il se passer? Boggy allait-il se redresser, retomber brutalement en arrière, devenait ses appréhensions, je ne sais. Steve s'approcha du lit. Je pris la main de Boggy dans la mienne, il parut réagir, serrer le bout de mes doigts. Je fis asseoir Steve près de moi, il nous resta un moment là, à tenir à nous deux la main de Boggy. Je ne songeais pas être en train de mourir. Il dormait simplement, d'un sommeil qui l'entraînait en des lieux auxquels je n'avais pas accès. Je ne me dis pas, c'est là l'aboutissement d'une existence. Est-ce ainsi que s'achève notre mariage? Cet homme si vivant, si plein de fantaisie, va-t-il vraiment nous quitter pour toujours? J'éprouvais seulement une tristesse infinie, et tandis que je regardais mon petit garçon que j'aimais tant, je pensais à l'injustice du sort. Pourquoi fallait-il qu'il soit contraint si tôt dans la vie de porter un tel fardeau? Leslie, sa sœur, n'avait que 4 ans, trop jeune pour ressentir un vrai chagrin. Pour le moment, la vie restait simple. Steve était juste assez grand pour connaître les premiers vrais problèmes. Au bout d'un quart d'heure, nous sortîmes. Steve se pencha pour embrasser son père sur la joue, je fis de même. C'était un geste de tendresse qui semblait tout naturel. Et évidemment, l'inéluctable arrive. L'infirmière vient chercher Lorraine Bacall. Je vis Bogey étendu sur le lit, la bouche légèrement entrouverte, les mains posées à l'extérieur sur les draps. Je m'approchai de lui. L'infirmière tentait de m'entraîner au dehors. Je n'arrivais pas à le croire. J'avais peur de le toucher. Je l'embrassai sur la joue. Il n'était pas encore froid. Quelqu'un d'autre était présent dans la pièce. Venez, venez, il ne faut pas rester ici, me répétait l'infirmière. Bien plus tard, je compris que des choses terribles arrivaient au corps humain, des choses qu'il ne fallait pas voir. Je me laissai emmener hors de la chambre, regardant par-dessus mon épaule, Bogey étendu, dans le lit, à cette place, qui jusqu'à sa maladie avait toujours été la mienne. Il ne fallait pas que je réveille les enfants. Je me dirigeais vers la porte d'entrée. Un homme vêtu du traditionnel complet noir se tenait à l'extérieur. Dans un coin de la cour était rangé le corbillard noir, avec ses portes arrière ouvertes dans ma direction. Au bord de la plateforme de la voiture était posé un grand sac blanc d'une forme bizarre. Tandis que le responsable de l'équipe me présentait ses condoléances, je regardais le sac. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Mr. Bogart. Je suis absolument navré, Mrs. Bogart. Bogey dans un sac. Quelle horreur. Je croyais qu'on l'avait emmené étendu sur un brancard comme s'il dormait, mais pas jeté dans un sac à croire qu'il n'était plus rien. Mais il n'était plus rien, justement. Ce n'était pas Bogey. Son cœur, son esprit était Bogey, et lorsqu'il s'en était allé, il n'était plus resté que la chair et les os, et ces hommes faisaient leur métier. Et cependant, pourquoi n'avait-il pu attendre un peu? Cette image-là ne m'a plus jamais quitté, ne me quittera jamais. Et dans le cauchemar qui m'assaillit ensuite pendant des mois, le sac blanc je le trouvais toujours mis en évidence. Je devais maintenant parler aux enfants. Steve, étendu dans son lit, ne dormait pas. Je m'assis près de lui, le serrai contre moi. Oh. Mon chéri, cela me fait un très grand chagrin, mais papa est mort très tôt ce matin. Il ne s'est pas réveillé et n'a pas souffert. Steve, les poings fermés, se frotta longuement les yeux. Ils étaient rouges et humides, mais il ne pleurait pas. « Il est au ciel ?» demanda-t-il. « Bien sûr, mon chéri. » « Et de là-haut, il va nous regarder. Alors il faut que tu sois très fort et très brave. Il était si fier de toi. Ne l'oublie pas. Et n'oublie pas non plus comme il t'aimait. » Que pouvais-je dire ? Comment expliquer à notre fils qu'à date de ses jours, sa vie ne sera jamais plus la même, qu'un vide vient de s'y creuser, qui ne sera jamais comblé. Je ne savais rien que l'aimer. Je lui dis alors que j'allais chercher Leslie, sa sœur, pour la ramener dans la chambre. Je lui dis, avec à peu près les mêmes mots, que Pampa était monté au ciel, que nous ne le reverrions pas, qu'il aimait infiniment. Leslie pleura à l'idée qu'on n'aurait pas son papa. Elle ne comprenait pas grand-chose d'autre. Je voulais qu'ils restent très proches l'un de l'autre, qu'ils soient inséparables et s'entraident toujours. Alors, à côté de ça, à côté de ce nécessaire travail de deuil, il y a des notes d'un humour douteux. Voici par exemple ce que raconte Lorraine Bacall. Ce fut à l'American Floral Association que nous dîmes l'incident hautement comique de la journée. Les journaux avaient publié le texte où j'exprimais le désir que les envois de fleurs soient remplacés par des donations au Centre américain du cancer au nom de Boggy. Sur quoi l'association des fleuris dans tous ses états avait jugé bon de m'adresser un télégramme. Et comme j'ouvrais ce que je croyais être un autre message de condoléance, je restais bouche bée. Demandons-nous aux gens de ne pas aller voir les films de Lorraine Bacall. Ce fut pour moi et pour tous ceux qui lurent ce télégramme le seul rire de la journée qui ne sonnait pas faux. Cela me faisait du bien de revoir cette maison pleine d'amis. Et pour conclure, je voudrais vous lire une lettre que Lorraine Bacall cite dans son livre, une lettre qu'elle a reçue à la mort d'Humphrey Bogart. Vous avez connu 11 ans et demi de mariage avec un homme merveilleux. Rares sont les couples qui peuvent se targuer d'une réussite comparable à la vôtre. De toute son existence, vous avez été la seule, absolument, pour laquelle il ait éprouvé un amour si profond, la seule dont il était aussi fier et qui plaçait au-dessus de toutes les autres êtres humains. Oui, celle qui a pu enrichir la vie d'un homme comme vous avez enrichi celle de Boggy est une femme privilégiée. Privilégiée, vous l'êtes aussi grâce à ce vivant héritage que vous a laissé Boggy avec Steve et Leslie. Une partie de lui-même qui demeure et demeurera une constante réaffirmation de vie et non de mort. Et c'est parce que je crois à cette vérité que je dis que dans le monde qui vous attend, au-delà de votre peine actuelle, la pensée de ces années parfaites que vous avez connues ensemble vous sera d'un grand secours. Ce bonheur-là, peu de gens le rencontrent, mais vous en avez eu votre part, Boggy et vous, et avec ce bonheur, vous avez vaincu la mort et reçu de la vie ce qu'elle pouvait vous offrir de meilleur. Je vous remercie de m'avoir écouté.
Radio Grand Ciel, la radio qui rapproche les hommes.